La suite de notre reportage sur les secours en montagne dans les Hautes-Alpes, aujourd'hui le rôle des CRS et de l'hélicoptère.
Oui, suite de notre reportage que nous proposent nos collègues de Briançon, nous avons vu hier l'importance du PGHM et le travail du SAMU. Nous vous proposons d'écouter la deuxième partie du reportage de Susanna Wright. Nous entendrons le capitaine Olivier Cousin, commandant des CRS de Briançon, et Éric Guichard, pilote de l'hélicoptère de secours en haute montagne.
Capitaine Cousin, quel est votre rôle dans l'équipe de secours en montagne?
Ben, je suis le responsable de du détachement CRS de secours en montagne de Briançon. Donc, je gère l'ensemble du personnel au niveau administratif. Et puis, au niveau du secours lui-même, je suis responsable de l'ensemble des opérations de secours quand c'est nous qui sommes de permanence.
Durant la semaine du 15 août, vous avez secouru un grand nombre de cordées dans des conditions très périlleuses. Pouvez-vous nous en parler?
Effectivement, ça a été une semaine exceptionnelle, point de vue du nombre de secours déjà, et puis point de vue de la technicité. En fait, il y a eu une phase de mauvais temps qui avait été sans doute un petit peu sous-estimée par Météo France. Beaucoup de cordées se sont engagées dans des grandes voies, que ce soit à la Mège, aux écrins, aux bancs, enfin voilà, sur tous les sommets des Hautes-Alpes, et on a eu quasiment le même jour à aller chercher toutes ces personnes. Il se trouve qu'en plus, donc vu la météo, ça n'a pas pu se faire en hélico, donc l'hélico a pu nous aider à approcher des sauveteurs, mais après il a fallu aller chercher les gens de manière terrestre, quoi, en alpinisme. Dans le mauvais temps, donc c'est vrai que ça a été vraiment compliqué. À un moment, on avait 5 cordées en même temps sur 5 sommets différents à aller chercher, dont certaines commençaient vraiment à geler, quoi. Il faisait froid en plus, donc voilà, ça a été compliqué. On s'en est bien sorti, c'est le principal. Tout le monde a été secouru de manière, je trouve, optimale.
Pourriez-vous nous expliquer de ce qui vous différencie avec le PGHM dans le secours de montagne?
Le PGHM appartient à la gendarmerie, nous à la police, voilà, ça c'est la base. Après, dans les Hautes-Alpes notamment, donc on intervient une semaine sur deux, on fait exactement la même chose, et en plus depuis un an, on a en plus la capacité de faire les enquêtes, donc on a une dizaine d'officiers de police judiciaire chez nous, donc il n'y a plus rien qui nous différencie au niveau du secours pur, enfin au niveau de notre activité pure. Voilà, la seule différence, c'est qu'on n'appartient pas à la même entité. Voilà, nous c'est la police et eux c'est la gendarmerie.
Pour les jeunes qui nous écoutent, comment peut-on devenir CRS secouriste?
Il faut d'abord passer par une école de police classique, que ce soit celle de gardien de la paix ou d'officier, pour ensuite intégrer notre centre de formation à Chamonix et pour faire des stages. Donc il y a beaucoup de stages difficiles. Mais il faut d'abord être policier, c'est-à-dire passer un concours de police classique, aller un an en école pour les gardiens de la paix, dans une école classique, et puis ensuite seulement pouvoir passer les stages. Alors sinon, si on est déjà aspirant guide de haute montagne, on fait quand même l'école, le concours et l'école, mais on va directement ensuite à notre centre de formation à Chamonix.
Et quels sont les dangers de la montagne et quelles précautions faut-il prendre pour vous aider dans votre travail?
Pour nous, ce qui nous aide quand même, le téléphone portable nous aide beaucoup. Avoir un téléphone, c'est quand même bien pour nous, pouvoir nous avertir, pouvoir aussi nous avertir s'il y a un retard avant qu'on attaque des recherches. Et puis surtout que des proches sachent exactement qu'est-ce qu'on avait envisagé de faire. Là, pour nous, c'est pas vraiment de la prévention, parce que ça évite pas forcément l'accident, mais nous, ça nous permet d'arriver plus vite sur place s'il y a un retard ou s'il y a eu un accident et que la personne n'a pas pu appeler. Nous, ça nous permet de savoir quand même où elle est, parce qu'on a quand même des cas de gens qu'on recherche, on sait pas du tout où ils sont partis, ça rallonge énormément les recherches. Et puis, si les gens sont vraiment en danger, ça fait qu'ils peuvent être secourus que tard. Si c'est un smartphone, s'il y a une connexion internet possible, à localiser précisément une personne qui est encore valide pour pouvoir envoyer par exemple un SMS. Donc on a des techniques pour les localiser précisément. Donc c'est une vraie aide, quoi.
Capitaine Guichard, vous faites partie de l'équipe Secours en montagne. Expliquez-nous votre mission.
Oui, bonjour. Donc, je suis le capitaine Guichard Eric. Je commande le détachement aérien de gendarmerie de Briançon. Mon périmètre d'action est très large puisque nous travaillons pour le ministère de la Défense et en l'occurrence pour le ministère de l'Intérieur. Donc, je travaille au profit de toutes les unités qui vont faire du secours en montagne, c'est-à-dire les CRS et le peloton de gendarmerie de haute montagne de Briançon.
Combien d'interventions avez-vous effectuées cet été?
Je vais vous parler d'une période estivale qui va s'étaler du 1er juillet au 15 septembre. Durant cette période, nous avons réalisé 285 missions. Nous avons secouru 325 personnes ou assisté une vingtaine de personnes. 11 personnes disparues ont été retrouvées.
Quel est votre périmètre d'action?
Notre périmètre d'action traditionnel correspond aux limites du département des Hautes-Alpes. Mais selon la règle de subsidiarité, on peut appeler ça de suppléance, nous pouvons être appelés à intervenir dans tous les départements voisins, c'est-à-dire l'Isère, la Savoie et aussi dans le sud du département, lorsque les hélicoptères de nos voisins, en fait, sont indisponibles.
Dès que vous avez reçu l'alerte pour une intervention, comment se déroule la préparation et évaluez-vous les risques en amont pour vous et votre équipe?
Oui, tout à fait. Donc je dirais que la connaissance du milieu dans lequel nous intervenons est primordiale. Donc lorsque nous recevons l'alerte, il y a différentes informations qui vont être relativement importantes. Pour nous, l'information la plus importante va d'abord être l'altitude et la localisation exacte de l'accident. Tous les matins, bien entendu, nous prenons la météorologie et nous suivons en permanence les évolutions de cette météo. Et en fonction de tous ces éléments, nous allons transporter sur place deux secouristes, voire un médecin en plus. On s'adaptera aux circonstances que nous allons rencontrer sur le terrain. Mais effectivement, il est très important de bien connaître le terrain.
Et pouvez-vous nous donner des exemples d'interventions que vous avez effectuées cet été en tant que pilote?
Cet été, durant la période des deux mois et demi, j'ai personnellement réalisé 118 missions. Voilà, c'est bon. Après, j'ai fait des secours. Moi, j'ai eu de la chance. J'ai eu relativement de bonnes conditions météorologiques. Mais voilà, donc on a secouru pas mal d'alpinistes qui étaient bloqués sur des sommets relativement hauts. En fait, ils ont été bloqués parce que les conditions météorologiques de cet été étaient particulières. Et ils ont rencontré des conditions, je dirais, de neige ou de glace très difficiles pour eux. Et ils n'ont pas pu souvent poursuivre leur course et nous avons été obligés de les extraire de leur mauvaise situation.
Le mécanicien joue un rôle capital pour la sécurité de l'équipe. En quoi cela consiste?
Alors donc je dirais que ces fonctions elles sont doubles. Il y a un petit rôle qui consiste à réaliser tout l'entretien de l'hélicoptère de Briançon et de tous les optionnels, c'est-à-dire le treuil. Et sa seconde mission consiste à assister le pilote en vol. Donc il fait partie intégrante de l'équipage, puisque nous sommes deux personnels naviguant à bord de cette machine, à prendre la décision, même si la décision revient au commandant de bord. Nous sommes quand même deux, plus les secouristes et le médecin, à prendre des décisions de savoir si on réalise ou pas cette mission par l'hélicoptère. En plus d'assister le pilote, il met en œuvre le treuil, donc il est treuilliste. Lorsque l'on charge des personnes à bord, il est chargé de veiller à ce que tout se passe bien dans la soute.
Quels sont les différents dangers pour un pilote et son équipe entre les vols de jour et de nuit?
Alors bon, forcément, c'est simple. Hein, le jour, la météorologie et la nuit aussi, bien sûr. Mais le jour, on a la chance de pouvoir voir, alors que la nuit, on ne voit pas, on voit très peu. C'est comme quand vous êtes dans votre voiture, hein. Souvent les gens préfèrent rouler la journée et la nuit lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises, c'est toujours plus difficile. Et bien pour nous c'est la même chose, c'est-à-dire que la nuit on va décoller si les conditions nous le permettent, donc si on a de très bonnes conditions aérologiques. Et souvent la nuit, les victimes, il faut qu'elles soient très localisées pour qu'on puisse intervenir. Et donc ça me fait un petit peu rebondir sur l'une des questions que vous m'avez posées. Il est très important pour nous de connaître notre secteur d'intervention.
Vous utilisez l'hélicoptère Chuka EC-45. Est-ce qu'il est équipé d'une façon spécifique pour le sauvetage en montagne?
Alors oui, effectivement. Donc il n'existe pas d'hélicoptères qui sont fabriqués pour faire le secours en montagne. Les hélicoptères sont avant tout des machines utilisées pour faire du transport public. Donc il a fallu adapter cet outil de travail à notre travail en montagne. Il est équipé d'un treuil et à l'intérieur, le cargo, enfin tout l'hélico, le sol est revêtu d'un revêtement spécial qui ne peut pas être endommagé par les crampons des secouristes. Nous avons installé également une banquette, ce qu'on appelle une banquette troupe, pour installer 3 personnes. Effectivement, il y a quelques optionnels qui ont été modifiés par rapport à la machine d'origine.
Parce qu'en total, vous pouvez prendre combien de personnes dans votre hélicoptère ?
D'après le constructeur, l'équipage minimum, c'est 1 pilote avec 10 passagers. Dans cet hélicoptère, nous travaillons en équipage tout le temps, 1 mécanicien, 1 pilote. À l'arrière, dans le cargo, nous prenons habituellement 3 personnes puisque nous avons 3 sièges, mais nous pouvons accueillir, je prends le cas d'un secours, si par exemple nous devons extraire rapidement des personnes, on peut charger, je dirais, jusqu'à 9 personnes à l'arrière.
J'imagine que vos moyens techniques ont évolué depuis ces dernières années. Pouvez-vous nous en parler ?
L'hélicoptère qui était utilisé récemment sur Briançon, c'était une Alouette 3, donc c'est une machine qui date des années 60. C'est une très vieille machine. Donc effectivement, les machines modernes apportent beaucoup plus de confort. Déjà par rapport à la puissance, c'est-à-dire le C-145 est, je dirais, quasiment 2 fois plus puissant que l'Alouette 3. Il possède 2 moteurs et donc son avionique moderne nous permet de voler plus en sécurité. D'autant plus qu'il est équipé d'un pilote automatique, donc ce qui peut être très très utile, notamment pour les vols de nuit.
Et comme c'est un travail hautement spécialisé, parlez-nous de la formation requise.
La formation des futurs pilotes montagne de la gendarmerie se réalise sur Briançon. Alors donc le minimum requis, donc le pilote doit normalement qui va être évalué doit posséder un minimum de 1000 heures de vol. Il doit être volontaire. Nous avons des campagnes de sélection qui se déroulent toutes les années sur Briançon. Tous les volontaires sont réunis, ils sont testés. Et à l'issue, nous allons faire une sélection et débuter la formation de pilote. Alors cette formation va s'échelonner sur une période normalement qui dure 1 année, sur 4 périodes de 15 jours. Donc le pilote qui va être formé va devoir connaître l'hiver, la fin de l'hiver, l'automne et une période un petit peu plus estivale. Il doit connaître ces 4 périodes avant de pouvoir être formé. Cette formation est très difficile, forcément.
Il y a combien de places ?
En fait, des places, il y en a très peu. En fait, on pourrait en former plus, mais lorsqu'on forme un pilote, il va falloir qu'il soit ensuite très rapidement affecté dans une unité montagne. Donc, nous arrivons à former entre 1 voire 2 pilotes par an.